Alors, qui ce soir n'est pas fatigué? Je regarde, il y a quelques-uns. La plupart des personnes, quand je les ai saluées ou je les ai vues, je vois la fatigue qui règne sur le corps. Même les jeunes me disaient qu'ils étaient fatigués. Donc. Qu'est-ce que vous avez lu, les hommes, tout à l'heure? Vous avez lu une partie de Daniel 4 jusqu'à 1-18? Est-ce que les femmes ont lu quelque chose ensemble? Non, les femmes n'ont pas lu la Bible. OK. Daniel chapitre 4. Nous allons parler de la belle et la bête, parce que c'est la belle vérité et l'homme bête. Dans ce chapitre, c'est une histoire que je présume, j'espère, que vous connaissez. Et je crois qu'il peut nous parler même au milieu de notre semaine. C'est une lettre royale de la part d'un roi à Nebuchadnezzar, à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue qui habitent sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. Voilà, donc c'est une lettre, Daniel 4, destinée à tout le monde, littéralement. Et le roi dit qu'il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard. Que ces signes sont grands, que ces prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Alors, si cette phrase est vraie, elle est d'actualité. Son règne est un règne comment ? Éternel, donc jusqu'en 2017. Et sa domination subsiste de génération en génération, donc encore jusqu'à nos jours. Donc c'est un message encore pour aujourd'hui. Et puis il dit verset 4, « Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison, et heureux dans mon palais. » Ça, c'est le rêve de tous les hommes, non? De vivre tranquille et heureux dans un palais. « Et j'ai eu un songe qui m'a effrayé, les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. » Ce qui nous montre que là, tout peut aller bien à l'extérieur, mais si les choses ne vont pas bien à l'intérieur, eh bien tout va mal. On peut être roi de presque toute la terre, dans un palais, mais il est plein d'épouvante et de peur. Et donc, verset 6, « J'ordonnais qu'on fît venir devant moi tous les sages de Babylone afin qu'ils me donnassent l'explication du songe. » Alors vinrent les magiciens, les astrologues, les chaldéens, les devins, et je leur dis le songe, et ils ne m'en donnèrent point l'explication. En dernier lieu, se présenta devant moi Daniel, nommé Belshazzar, d'après le nom de mon Dieu, et qui en lui l'esprit des, et qui a en lui l'esprit des dieux saints. Je lui dis le songe. C'est intéressant hein, qu'il vient en dernier lieu. Il y a des habitudes qu'on garde. Et même s'il connaissait Daniel, il l'appelle toujours en dernier. Et je lui dis le songe, verset 9. Belshazzar, chef des magiciens, qui a en toi, je le sais, l'esprit des dieux saints, et pour qui aucun secret n'est difficile. Donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en mon songe. Voici les visions de mon esprit pendant que j'étais sur ma couche. Alors, je pose juste une seconde. Est-ce que vous savez ce qui va se passer plus tard, ce qui va arriver à Nebuchadnezzar? Il va littéralement être envoyé par Dieu dehors pour vivre comme une bête. Donc ça, c'est le songe qui le prédit. Okay, donc pensez à ce qui va arriver. Pensez à Nebuchadnezzar qui est roi, qui va vivre comme une bête pendant 7 ans, pendant qu'il raconte ce songe. Et je regardais, voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Verset 11. Cet arbre était devenu grand et fort. Sa cime s'élevait jusqu'aux cieux. Et on le voyait depuis les extrémités de la terre. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre. Les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches. Et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Alors, aidez-moi. Cette vision de cet arbre, ça représente qui? Quoi? Quoi ou qui? Ça représente... C'est qui l'arbre? C'est Nebuchadnezzar, non? C'est le roi. Vous avez bien saisi l'image? Ça, c'est d'une grande hauteur. Sa cime s'élève jusqu'aux cieux et on le voit depuis les extrémités de la terre. Et sous son feuillage, eh bien, tout s'abrite. Il est au-dessus de tout le monde. C'est immense, c'est impressionnant. C'est un des grands de la terre et encore de nos jours, un des plus grands de l'histoire. Alors, verset 13. « Dans les visions de mon esprit que j'avais sur ma couche, je regardais. Et voici, un de ceux qui veillent et qui sont saints descendit des cieux. » Alors, c'est qui, aidez-moi là, c'est qui, un de ceux qui veillent et qui sont saints? Vous croyez que ça parle de qui? Un ange, je crois, non? « Et il cria... » Verset 14, il crie avec force et parla ainsi. Et là, vous allez comprendre pourquoi le songe l'a troublé. Parce que si on termine là, c'est plutôt un beau songe. Hein? C'est pas mal. Mais l'ange crie, « Abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez le feuillage et dispersez les fruits, que les bêtes fuient de dessous et les oiseaux du milieu de ses branches. » Mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il ait comme les bêtes l'herbe de la terre pour partage. Son cœur d'homme. Et là, on commence à comprendre, oh, c'était un arbre, mais il a un cœur d'homme, donc... Il parle d'un homme ici. Son cœur d'homme, verset 16, lui sera ôté et un cœur de bête lui sera donné. Et 7 ans passeront sur lui. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît. Et qu'il y élève le plus vil des hommes. Ça, c'est la fin de la citation de cet ange et la fin donc du récit. Et verset 18, « Voilà, dit le roi, le songe que j'ai eu, moi, le roi Nebuchadnezzar, et toi, Belshazzar, donne-en l'explication, puisque tous les sages de mon royaume ne peuvent me la donner, toi, tu le peux. » Car tu as en toi l'esprit des dieux saints. Alors c'est difficile pour Daniel de le faire. On voit qu'il tombe en fait stupéfait. Il n'a pas envie de donner l'explication au roi et de lui dire que ça ne parle pas d'un ennemi, mais ça parle de lui. Et d'ailleurs, il y a les deux extrémités du songe. L'un qui est tellement exalté, il aimerait bien que ça soit lui, mais ça termine tellement mal qu'il aimerait que ça soit un ennemi. Et ça parle de lui. Alors, j'aimerais continuer à lire, mais malheureusement, on n'a pas le temps, mais je vous encourage à le lire vous-même. Mais je vais dire simplement que c'est exactement ce qui s'est passé. Pendant Dieu, un an plus tard, Dieu a enlevé cet esprit d'homme de ce roi. Il a vécu toujours homme. Il n'était pas transformé en bête, mais il a vécu comme une bête dehors, mangeant même l'herbe du champ, extrêmement humilié pendant 7 ans. Et puis Dieu l'a, dans sa grâce, il l'a élevé de nouveau. Alors pourquoi est-ce qu'il a fait ces choses? Alors, la première chose que je veux souligner est celle-ci. La réalité de l'histoire biblique. La réalité de l'histoire biblique. C'est le simple fait que si ce n'est pas une histoire vraie, on ne peut pas tirer de leçons de cette histoire. Surtout parce que vous voyez que, on va le voir tout à l'heure, que la grande leçon de l'histoire, c'est que le Très-Haut domine sur le règne des hommes. Donc, c'est difficile de dire, bon, c'est une histoire inventée pour nous démontrer que Dieu domine sur le règne des hommes. Mais en réalité, Dieu ne domine pas sur le règne des hommes. Vous voyez, on ne peut pas tirer des leçons spirituelles si ces choses ne sont pas historiquement réelles. Donc, en tant que chrétiens, nous devons accepter l'historicité de ces histoires. C'est des vraies histoires qui se sont réellement passées et notre foi est une foi historique dans ce sens, basée sur des faits historiques, et pas des philosophies. J'ai entendu un prédicateur, il se dit protestant et athée en même temps, et il parlait de Moïse et du buisson ardent, et il a dit, je cite exactement, il a dit, ça s'est jamais passé. Donc c'est pour ça que c'est vrai. Je me disais, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire. Et il prêche un Dieu dont il est convaincu n'existe pas, en fait. Il a même écrit un livre sur le fait que Dieu n'existe pas. Mais nous savons, j'espère, mieux que ça. La deuxième chose, donc la réalité de ces histoires, la deuxième chose, c'est la nécessité de leur interprétation. Parce que beaucoup de choses se passent dans l'histoire. Mais si on n'a pas une voix qui nous interprète ce qui se passe, on va nous-mêmes imaginer des choses très, très variées. Et nous voyons ça d'ailleurs dans l'histoire. Certaines personnes l'attribuent à des idoles, d'autres personnes disent, bon, c'est simplement la science. Je parlais avec un de mes enfants aujourd'hui du fait de l'homme. Il est là et il y a des hommes qui disent, bon, c'est la chance, voilà. C'est l'évolution, c'est la chance, pure chance. Et donc, il faut une voix qui nous explique ces choses. Et c'est pour ça, regardez, au début du chapitre, il dit que, verset 2, « Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard. » Donc, j'ai dû faire connaître ces choses. Et nous avons plus tard l'explication. Il dit même, verset 17, et je m'excuse, si vous avez le second 21, les versets sont différents. Je crois que quand je dis 17, vous avez le 14. Et après, je ne sais pas quoi. Mais donc verset 17, sauf dans le second, c'est verset 14, que ce décret, cette résolution est un ordre des saints afin que les vivants sachent, et donc il donne l'explication. Donc il nous faut une explication de notre monde. Les choses se passent dans ma vie, où est-ce que je vais en tirer l'explication? Il me faut une voix divine et elle nous est donnée dans la Bible. Donc, je n'interprète pas Dieu par mes circonstances. J'interprète mes circonstances par rapport à mon Dieu, ce que je connais de mon Dieu. Je laisse la Bible interpréter mes circonstances. Et alors, quelles sont les vérités à souligner? Il nous est dit, c'est très clair, on le voit 4 fois, une vérité par rapport à Dieu, et puis il y a aussi une vérité par rapport à l'homme. Et moi, je pensais à cela, ça m'a encouragé surtout, je pense, beaucoup à la salle et notre besoin d'une salle, mais pense aussi à la famille Cole qui va déménager. Je ne sais pas ce que vous avez dans votre vie, mais regardez le point central. Ça revient 4 fois, ok? Regardez d'abord le verset 3. que ses signes sont grands, que ses prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Son règne et sa domination. Alors, maintenant, regardez le verset 17 ou le verset 14. Il dit, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, il le donne à qui il lui plaît et qu'il y élève le plus vil des hommes. Ça revient, vous voyez? Et même le nom pour Dieu, quel est le nom pour Dieu qu'il utilise? Le Très-Haut, même ce choix de mots, de nom pour Dieu, le Très-Haut, parce qu'on parlait d'un arbre dont la cime allait jusqu'au ciel, mais là c'est le Très-Haut et lui il domine sur tout. Et il donne à qui il veut. Ok? Allez un peu plus loin. Là on n'a pas tout... On n'a pas pu tout lire, mais c'est le verset 25. C'est Daniel qui parle, je commence au verset 24. « Voici l'explication au roi, voici le décret du Très-Haut, encore le nom qui revient, qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. » Donc là, on sait qu'il parle très clairement du roi. « On te, verset 25, chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, et l'on te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger, tu seras trempé de la rosée du ciel, et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le, c'est qui? Très-Haut, et il fait quoi? Il domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît. » Vous voyez, ça revient maintenant une troisième fois. Continue, regardez le verset 26. « L'ordre de laisser le tronc, où se trouvent les racines de l'arbre, signifie que ton royaume te restera. Quand tu reconnaîtras que celui qui domine dans les cieux. » Là, on l'a à l'envers. Avant, il a dit « le Très-Haut domine », et là, il dit « celui qui domine est Très-Haut, il est dans les cieux ». Mais ça revient, cette même idée. Donc, bon, on va sauter un peu, aller jusqu'au verset 32. Et là, c'est une voix qui tombe du ciel. Okay? Verset 31, reprenons verset 31. « La parole était encore dans la bouche du roi. » Il était en train de se vanter, là, un an plus tard, « qu'une voix descendit du ciel qui dit ceci. « Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger. Et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que qui ? Le Très-Haut fait quoi ? Il domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Et au même instant, la parole s'accomplit. Alors, c'est dur à rater le point central de cette histoire. Alors, on se demande, est-ce que Nebuchadnezzar, après 7 ans sont passés, est-ce qu'il a compris le message? Bon, d'abord, on peut dire qu'il était quand même, très têtu. Ça a pris 7 ans, dehors, pour qu'il apprenne. Mais regardez le verset 34. « Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. » Juste une pause là-dessus. C'est intéressant, non, que ce qui semble avoir tout changé n'est pas un accroissement de connaissances, mais un changement d'attitude. Pas un assentiment à quelque chose, mais une adoration. Il lève les yeux et il glorifie et ça change tout. Et il dit, je bénis qui ? Le Très-Haut. Le Très-Haut. Lui qui était cet grand arbre. En tant que grand arbre, il se disait, regarde ce que j'ai fait. Et maintenant qu'il est la bête, il bénit le Très-Haut. Et glorifie celui qui vit éternellement. Celui dans là, quel est le mot? Domination. Vous voyez? Celui qui, le Très-Haut domine. Il a la domination et c'est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Et tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît. Ça, c'est les mots du roi, avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu ?» Et ça, c'est très important, le verset 36, que c'est en ce temps que la raison me revint. Ça, mes amis, ça, c'est la raison. Ça, c'est l'intelligence. Notez qu'il a la raison en attribuant à Dieu toute la gloire et la puissance. Donc, de faire autrement est tout simplement quoi? Donne-moi le mot. C'est bête. De faire autrement est bête. La raison lui revient quand il donne à Dieu la gloire pour toute la puissance. Donc ça, c'est le point central de cette histoire, que l'Éternel règne et qu'il domine sur tout, sur tout. Et il écrit cette histoire, pas seulement pour sa génération, mais aussi pour la nôtre. C'est une lettre qui nous parvient, imaginez, quelques milliers d'années plus tard, on a toujours sa lettre. C'est un merveille. Et elle est pour nous aussi, que pour nous dans notre temps, nous reconnaissions que l'Éternel, le Très-Haut, domine sur tout. Et de résister à cela est une bêtise. Et que souvent, Dieu doit nous humilier avant qu'on puisse le reconnaître. Alors, il y a cette vérité sur Dieu, mais aussi, de l'autre côté, la vérité sur l'homme. Je ne sais pas si vous avez noté, quand c'était au verset 17, quand il dit qu'il donne le royaume à qui il lui plaît et qu'il élève le plus quoi? Le vil des hommes. Alors pour vous, qu'est-ce que gère quand ça arrive à Nebuchadnezzar? Qu'est-ce que ça suggère par rapport à Nebuchadnezzar? Qu'il est le plus vil des hommes, hein? Qu'il est un vilain, comme un des jeunes a dit tout à l'heure. Il est un simple vilain. Et on voit qu'il a compris, parce que regardez le 35, alors je reviens là à la fin, parce qu'il dit, il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux, avec les habitants de la terre, et il n'y a personne qui résiste à sa main. Okay. Je l'ai perdu. Où est dit le néant, son néant? Je l'ai sauté. C'est pour ça. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Voilà. Ville et néant. Donc vous voyez, il y a le message que Dieu veut communiquer par rapport à lui-même. Il est le Très-Haut. Et il y a un message par rapport à l'homme. Devant Dieu, il est vil, vilain et néant. Alors, on a deux images dans ce songe de Nebuchadnezzar. La première image qu'on a vue, on a vu Nebuchadnezzar était comment? Dans la rêve, un arbre, voilà. Il était un très grand arbre. Ça, c'est une des images. Et l'autre image, c'est qu'il est quoi? Une bête. Okay? Donc, un arbre qui est au-dessus de tout, qui remplit presque toute la terre. Et il est aussi une bête. Il y a deux images du même homme. Alors, selon ce qui se passe dans cette histoire, aux yeux de Dieu, quelle est l'image, en fait, plus réaliste, plus proche à la réalité par rapport à la personne même de Nebuchadnezzar? C'est l'arbre qui remplit toute la terre ou est-ce que c'est la bête qui mange dans les champs? C'est la bête, n'est-ce pas, qui mange dans les champs. D'un point de vue, c'est vrai, d'un point de vue, il est grand comme le plus grand des arbres. Mais Dieu a démontré d'une façon spectaculaire que, en fait, devant Dieu, il est plutôt comme une bête qui mange de l'arbre dans un champ. Et s'il veut, il peut le faire. Il peut le faire. Ça, c'est l'image le plus réaliste aux yeux de Dieu. Alors, vous savez que c'est la même chose aujourd'hui. On voit des grands, des présidents, des chefs de bureau, je ne sais pas, des chefs d'établissement, des professeurs, des parents. On les voit comme immenses, comme grands, qui contrôlent ma vie. Mais du point de vue de Dieu, ce ne sont que, en fait, comme une bête. Il peut faire comme il veut avec ces personnes. Et il gère absolument tout. Il gère tout. Dieu ne peut pas ne pas contrôler toute chose. Il ne peut pas. Il contrôle toute chose. Et en priant, même pour la salle, c'est Jeanne qui a fait la remarque qu'en Colossiens, il dit qu'en lui, toute chose subsiste. Elle a dit, il faut penser au fait que même la salle pour laquelle on prie subsiste parce que l'Éternel le tient. Il le tient pour pas que ça disparaisse. C'est là parce qu'il veut que ça reste là. Toute chose subsiste en lui. Il peut tout faire. Et je ne connais pas, mes frères et mes sœurs, vos difficultés ou les personnes dans votre vie qui semblent nuire à tout. Mais sachez que même s'ils sont aussi puissants que les Kunetsar, et devant Dieu, ils sont néants, du néant, rien de tout. Et que c'est lui qui contrôle tout. Et comme Job, il a dit, vous savez, on voit, mais parce que on parle de ça dimanche dernier, je crois que Satan vient, il fait ça, il fait ça, il fait ça, et à la fin, Job dit, c'est qui a donné et c'est qui a ôté. Qu'est-ce qu'il dit? C'est l'Éternel qui a donné, c'est l'Éternel qui a ôté. Et le verset juste après dit que dans tout cela, Job n'a point péché avec sa langue. En attribuant tout cela à Dieu, il a fait la bonne chose. Et Daniel est pris comme prisonnier. Daniel n'a pas le choix de son carrière. Il n'a pas le choix certainement d'où il va habiter, ce qu'il va faire avec ses journées. Vous pensez qu'il a passé sa vie en disant « Regardez ce que Nebuchadnezzar m'a fait » ou est-ce qu'il se disait « C'est Dieu qui m'a ôté de ma patrie, c'est Dieu qui m'a mis dans cette ville, c'est Dieu qui m'a donné cet emploi, c'est Dieu qui m'a donné cette maison. » Je suis sûr en lisant Daniel qu'il avait cette attitude. Il savait que c'était Dieu qui contrôlait tout. Alors, vous pouvez dire la même chose. C'est à cause de lui, à cause d'elle, à cause de ça, ou ceci ou cela, que je suis là. On peut dire comme Job, Daniel et d'autres, non, c'est Dieu qui m'a mené jusqu'à ce point. C'est lui qui contrôle tout. Et toutes les autres choses sont devant lui comme du néant. Ça, c'est la bonne perspective à avoir. Que Dieu nous aide à le croire vraiment. Parce que c'est la réalité. Voilà, prions le Seigneur.